Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André Lauzé et nouvelle arrivée, Marco. Comment ça va les boys?
Yeah, let's go!
Ça va bien.
Nice. Ah. Hey, là, dans le fond, juste pour mettre en contexte, Marco, nouveau collaborateur, va être là le plus souvent possible. Comme ouais. Il nous a dit, il s'est levé, il a choisi la violence. Il met une casquette des Bills. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, il a vraiment mis là, la table à peut-être un futur conflit. On va en parler.
Rick, oh, ouais, ouais.
Mais pas tout de suite. Marco, nouveau collaborateur avec nous. Donc, je te cède la parole dès le début, dès l'entrée de jeu. Avant qu'on parle du match que tu as envie de nous parler, il faut qu'on mette un peu en contexte. Donc, qu'est-ce qui te motive à venir avec nous autres au podcast, là, vite demain?
Ben, dans le fond, je te dirais qu'avec l'Osé, on a déjà beaucoup de groupes de football, puis on parle de ça à tous les jours. La saison pour nous autres a commencé début avril, 3 semaines avant le repêchage. On en parle à tous les jours. Puis je me suis dit, j'ai toujours été comme intéressé par les podcasts, que ce soit au hockey ou au football. Je me suis dit, tant que Jessica qui m'a dit que vous étiez deux à faire ça, puis qu'on pourrait peut-être vous m'inviter, en fait, j'étais comme, ben, pourquoi pas, ça va être le fun. Puis à la limite, ça va juste me donner, être plus assidu à mon affaire, à checker plus les games au travail de la semaine, puis tout, puis de parler de football, on fait ça tous les jours, fait un heure de plus, un heure de moins, pas trop avec ça.
Ouais. Voilà. Lauzé, c'est un homme à qui on dit pas non, fait quand il nous a suggéré ton nom, il nous a été vendu comme un spécialiste ou quelqu'un qui pourrait nous intéresser par rapport au pari. Moi, je suis pas un parieur, je m'y connais pas vraiment, mais toi, dans le fond, est-ce que c'est que tu as des grosses dettes de jeu ou tu prends une est-ce que tu vends tes bêtes? Comment ça marche?
J'en connais qui ont des dettes de jeu, mais non, pas moi. Je suis pas aussi bon que l'Osé dit. L'Osé est beaucoup plus spécialiste que moi. Moi, c'est plus des petits bêtes par-ci par-là. Je parlais de ça juste pour dire que si on peut rentrer un peu comme que tu as fait Marc-André dans le dernier podcast, tu lançais des petites lignes comme ça. S'il y a plus ou moins 46,5 points, moi, je pense que vous avez parlé de la game d'Atlanta justement contre les Bucks. Finalement, vous étiez pas loin, mais ça a été moins de 46 points, je crois, en plus. Fait que vous étiez pas loin.
À cause des kickers. On blanche sur ces kickers.
Mais c'était beaucoup plus serré, puis beaucoup moins de points que même moi, je pensais. Je pensais vraiment qu'il y avoir des gros jeux de 60 verges, 70 verges d'un bord comme de l'autre. Et ça a commencé fort avec Bijan, justement, qui a un touchdown passe de 50 verges et plus. Donc, c'est ça. Puis c'est pas mal ça qui m'intéresse à venir vous jaser, c'est que je suis un fan de football. Là.
Puis, dans le fond, on va commencer avec toi pour le premier match. Donc, chaque personne, Marc-André Lauzé et toi, Marco, on va parler d'un match en particulier. On peut pas parler de tous les matchs. Puis, comme Lauzé a dit, c'est au moins un match par plage horaire. Le podcast durait 2 heures juste avec son analyse experte des matchs. Ouais. Donc, on va quand même y aller un match par personne. Puis, on a quand même choisi ton équipe pour commencer, pour te rendre à l'aise. Donc, fan des Chargers. Puis, tu as vu ce match-là, Chiefs-Chargers?
Quand des Chargers, c'est les casquettes des Bills actuellement quand même.
Ouais, mais
la casquette des Bills, c'est vraiment pour narguer l'Osé.
C'est vraiment juste pour que ça fasse mal.
Ouais. Je fais partie du bandwagon aussi québécois des Bills parce qu'on y va quand même aux 2 ans, je te dirais, les voir en personne. Donc, on n'a comme pas un bien choix. Beaucoup de Québécois là-bas, on a du fun.
Ouais. Il faut en profiter.
Ouais, c'est ça. C'est notre équipe locale, on peut dire.
Fait que si on revient, les Chiefs affrontaient les Chargers vendredi. Et dans le fond, c'est les Chargers qui ont eu le dessus 27-21. Donc, pour commencer la saison en force, une victoire contre les rivaux de division. Ton analyse principale, tu peux commencer à parler des Chiefs en premier ou des Chargers. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce match-là vite comme ça?
Je vais commencer par les Chiefs. Ils m'ont surpris dans le sens où ils n'étaient pas très bons. Non, mais en voulant dire, la secondaire, je trouve qu'il laissait beaucoup d'espace pour les passes à Herbert. Il y avait beaucoup de séparation entre les défenseurs et les receveurs. Puis, je te dirais que la défensive des Chargers m'a surpris. On joue une super bonne game. On était vraiment incisifs sur le jeu contre la course. Je n'ai pas encore compris pourquoi Pacheco n'avait pas eu plus que 5 KU dans la game. Je n'ai pas compris. Les Chargers n'étaient pas par 3 ou 4 scores.
Il y a quand même 25 verges sur ces 5 courses, c'est ça l'affaire.
Oui, exactement. Il aurait pu s'en servir beaucoup plus pour justement contrôler le ballon et compagnie. Puis j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont pas plus utilisé. Même Kareem Hunt a eu autant de ballons que lui. Puis on a forcé aussi Mahomes à courir. Ce qui est pas vraiment... Ben, tu sais, oui, il est capable de le faire, mais c'est pas vraiment sa force première. Dans un sens où il a quand même couru pour genre quoi, 60 verges, aussi environ?
57. 6 courses, 57 verges.
Ouais. Exactement, 6 courses.
Puis il était juste... Je t'arrête un instant pour clarifier. Quand on parle de pas beaucoup de courses, c'est en général, ce match-là n'a pas eu beaucoup de courses pour Kansas City. On parle de 6 courses pour Patrick Mahomes, 5 et 5 pour Kareem Hunt et Pacheco, ouais. Puis une seule pour Worthy. On se demande pourquoi. Là. On va en reparler peut-être plus tard.
Oui, exactement. Mais, notre ami Travis Kelce qui a décidé de rentrer dans Xavier Worthy pour une des premières séquences du match, quoi, en plus.
Oui, première séquence, troisième jeu.
Ouais, Worthy qui pèse environ 122 livres, Kelce qui en pèse environ 240 qui rentre dans l'épaule. Je peux comprendre qu'il y a une
sélection. 39 jeux de passe pour seulement 17 jeux de course. Fait que c'est vraiment, vraiment un festival aérien qu'il y a eu pour les Chiefs. Mais continue, ouais. Je voulais juste comme dire les stats par rapport à ça, mais continue avec ton analyse des Chiefs.
Non, ben c'est ça. Honnêtement, qu'est-ce qui est cool, moi, ce que j'ai trippé, la défensive a fait la job. On a scoré dès la première séquence à l'attaque. L'Osé a dit, c'est sûr que si les Chargers arrivent avec un plan de match, run a heavy offense, puis genre essaie de passer par la run, premier essai, deuxième essai, après ça, troisième et short pass, ça marchera pas. Puis on l'a vu dans le match, Herbert faisait des passes de 30 verges, premier essai, il essayait la zone des buts, ils ont pas fait ça. Moi, ce que j'ai aimé des Chargers, c'est que malgré qu'ils ont eu le lead toute la game, Justin Herbert a lancé le ballon 35 fois pareil, là, 34 fois si je me trompe pas. Ça a été bon. Il n'a pas lancé 300 verges depuis, genre, 2023, je pense, week 10, contre, je ne me rappelle plus qui. Puis, il y a plus 3 passes de toucher contre la défensive des Chargers de KC. C'est excellent. Je ne sais pas. Honnêtement, on n'a pas tiré de l'arrière de la game. C'est un maudit beau match d'équipe. Défensive, ça coche. Derwin James a fait capitaine de la défensive. Guillaume, je pense, ou je ne sais trop quoi. Il y a eu 9 tackles presque en combo. Lad McConkey était lui-même. Même chose pour Keenan Allen qui a fait des short slant. Il a attrapé ses ballons. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a eu une petite affaire aussi, l'Osé, qui a plus remarqué que moi, à Moyen Hampton à demi. Moi, j'ai juste vu le monde courir, partir à courir, faire le placement de 3 points, genre presque pas préparé à 8 secondes de la fin, mais je ne savais pas qu'est-ce que Omar Anton a fait pour dropper le ballon. Je sais pas qu'est-ce que.
Non, Omar Anton, il avait toutes les chances du monde de sortir, de rester inbound pour qu'après ça, il puisse punter et que Casey n'avait plus de timeout. Mais il a step outside. Il a mis le pied sur la ligne. Okay, il a fait une erreur, clairement une erreur de recrue. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, tu sais, tu as donné le ballon, même s'il n'y avait pas de timeout, à Mahomes, il restait peut-être un genre de 30 secondes, mais ils ont eu juste assez de temps pour aller marquer un field goal. Ça va faire la différence à un certain point dans le match.
Ouais, ils sont capables, tu sais, de marquer un toucher avec un reste 30 secondes. Ils l'ont fait par le passé.
Quand ils ont fait ça, puis ça tombait à une possession d'écart, j'étais un peu stressé, je te dirais, en venant de la demi. Je me suis dit, encore une game serrée dans une possession. En tout cas, va pas sacrer, là, mais ça pour dire que j'étais en crise aussi parce que je me suis dit, on n'échappera pas celle-là, ouais. Pas encore. C'était déjà, comme tu disais, 1500
jours. T'as eu peur. Deux petites questions pour toi. Je vais laisser les gars te relancer s'ils veulent en savoir plus sur ce match-là. Moi, c'est un match que j'ai pas vu. Puis dans le fond, juste savoir, là, ça a l'air épais, mais qu'est-ce qui se passe avec Najee Harris, ancien des Steelers? Une seule carry pour 5 verges, es-tu blessé ou il n'est pas aimé?
Feu d'artifice
au début de l'été, je pense.
Le 4 juillet, trop célébré, feu d'artifice dans l'œil.
Ouais. C'est pas réglé encore, c'est pour ça qu'il y a juste
jusqu'à une semaine avant le début de l'année, il n'était pas supposé, il n'était pas encore déclaré qu'il allait jouer. Puis je pense que le match était jeudi, puis il a été déclaré comme dans le roster partant, je pense lundi. Fait clairement qu'il ne faisait pas partie du plan de match tant que ça.
Mm-hmm. Non, okay. Mais c'est ça aussi. Moi, je pense qu'il n'a pas eu le temps. Il ne s'est pas entraîné tout le training camp à cause de ça. Il était clear de contact, genre peut-être une semaine avant la game. Donc, il n'a pas eu le temps de se mettre game shape pour pouvoir prendre des carries plus que ça dans ce sens.
OK. Puis mon autre question, c'est est-ce que c'est encourageant? Tu as vu le début? Est-ce que dans le fond, tu les as sentis vraiment préparés puis en contrôle? Puis c'est encourageant? Ou c'était chancelant et tu as juste hâte de voir est-ce que les autres équipes. Tu as peut-être vu des jeux qui auraient pu mal virer, soit des interceptions qui ont été échappées par la défensive des Chiefs. Est-ce que tu as senti que c'était tendu ou il était en contrôle du match jusqu'à la fin? toi, ça t'a mis en confiance. Comment tu t'es senti durant ce match-là?
Très en confiance, surtout que j'étais un peu genre sceptique parce que Rashawn Slater s'est blessé pour la saison. On avait comme supposément le meilleur duo de tackle avec Joe Alt, qui soi-disant en passant a bloqué Chris Jones plus souvent qu'autrement pour un petit kid de un petit kid 6'9", 320 livres. Mais il a bloqué Chris Jones quand même très bien pour un petit jeune. Là. Fait que j'avais quand même peur parce que je me suis dit la joue par la course sans Slater, c'était so-so l'année passée. Puis sinon, regarde, deuxième année de Jim Harbaugh avec Greg Roman puis Jesse Minter. Minter qui a pris cette défensive-là, qui était 24e overall en 2023. Tu l'as monté 8e l'année passée. J'étais très, comment je pourrais dire, excité de voir comment ça allait se passer. Puis, honnêtement, qu'est-ce que tu veux de mieux qu'une win comme Casey, première game de la semaine? C'est malade.
Ah,
c'est
très malade. Cool. Ben, content pour toi et ton équipe. Là, on va passer avec Marc-André.
Moi, je veux juste avant,
est-ce que j'ai une question sur lui?
Oui, c'est ça. J'aimerais réagir un peu à ça, là. Je veux pas me répéter. Moi, il y a deux choses. Cette game-là, pour moi, ça peut être un stepping stone pour les Chargers parce que c'est exactement le genre de match. On en parlait dans, je me souviens plus si c'est le premier ou le deuxième podcast cette année, on en parlait des Chargers que c'était le genre de match qu'ils perdaient constamment par les années passées. Un match qu'ils menaient tout le long de la game, puis à la fin, whoop, une remontée, puis là, ils se faisaient battre par un field goal ou whatever. Exactement, à
la
dernière seconde, c'est exactement le genre de match qu'ils perdaient par le passé, qu'ils n'ont pas perdu. Justin Herbert n'a pas eu de pic. Moi, je trouve que ce match-là, si les Chargers sont capables de bâtir sur ce match-là, moi, je pense que les Chargers peuvent avoir vraiment une saison excessivement intéressante. De l'autre côté, pour moi, les Chiefs, avec la blessure à Worthy, je pense que le plan de match des Chiefs a été complètement mis hors match, là, dès le jeu numéro 3 du match, parce que clairement, avec le receveur numéro 1 qui n'est pas là pour les 6 premiers matchs, tu perds Worthy après 3 jeux, là, ça veut dire que Worthy est out, je me souviens plus, je pense que j'ai vu une couple de semaines encore. Moi, je t'avoue que cette blessure-là m'inquiète beaucoup pour les Chiefs, parce que là, on se ramasse avec Marquise Brown, qui est le receveur numéro 1. Personnellement, j'ai aucune confiance en ce gars-là. Il a eu une bonne saison dans sa carrière. Ça date de, je pense, 3-4 ans avec les Ravens, puis c'est tout. Je suis quand même inquiet pour les Chiefs pour les semaines à venir, surtout avec la performance défensive. C'est pas le genre de performance de Spagnolo. C'est quand même une performance qui m'inquiète là, pour les Chiefs. Là.
Ben, moi, je suis d'accord sur deux choses que tu as dit, Marc. Premièrement, c'est vraiment un match pivot pour tout ce qui est le l'aura des Chargers, l'aura de Herbert. Puis en plus, il l'a fait d'une belle façon, tu sais. On va s'entendre avec la manière que Mahomes il a sorti le Magic Mahomes au quatrième quart. Mm-hmm. On pouvait tout filer que la même chose allait se produire encore. 3e et 14, il reste encore 2 minutes. C'est en masse de temps pour Mahomes. Puis, tu sais, il va chercher ce first down-là, victorieux sur une course de
17
verges pour un gars qui court pas.
C'est ça, exact.
Ancien Herbert aurait, sur le 3 et 14, quand même lancé le ballon, puis ça aurait probablement été pas complété. Puis là, Casey serait revenu, puis connaissant, mettons, leur historique, probablement qu'il aurait gagné ce match-là. Fait que là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé de différent ce match-là. Puis je suis un peu d'accord, là, le plan de match, clairement, tu sais, Worthy. Worthy va être, pour ceux qui suivent un peu les 49ers, c'est sûr que dans cette attaque-là, il va être utilisé comme Deebo Samuel. Il a été utilisé pendant des années là-bas. Faire des sweeps, faire des jeux, faire du wildcat, y aller pour le deep. Parce qu'en plus, dans le camp d'entraînement, les Chiefs, c'est la première fois dans les 6 dernières années ou 5 dernières années que la plupart des passes tentées par Mahomes, de tout ça, il n'a pas joué beaucoup. Mais c'est toutes des passes deep. C'est vraiment c'est quelque chose qu'ils voulaient ramener dans leur plan de match, d'essayer de faire un peu ce qu'ils faisaient dans le temps avec Tyreek Hill. Fait que là, c'est sûr que ça a bousillé leur plan. Je suis d'accord aussi, Spagnuolo. Par contre, la force des Chiefs, c'était quoi? C'est la défense contre l'attaque au sol. Ouais, ça a super bien été. Ouais. On va le dire, le scrambling yards de Herbert, c'est pas en lien avec la défensive contre la course. Tu sais, ça, c'est le gars, il était bien capable d'improviser des courses, mais pour ce qui est des yards per carry de Hampton, Mais tu sais, ça n'a pas 3. été super.
3.2,
c'est ça. Ça n'a pas été extraordinaire.
Fait que, c'est sûr il y a quand même pas de rebounds. D'autres 0, moins 1, moins 2. On va dire. Il y a eu des beaux petits flashs. Des moins
ouais,
beaux
mais
flashs.
C'est ça. Mais overall, la défensive contre la course, elle a été fidèle à elle-même.
Exact.
Par contre, Marco, il l'a super bien souligné. Là, je ne sais pas quel genre de zone man-to-man qui jouait un mix des deux, mais beaucoup trop de passes de 20 verges complètement wide open. Ça c'est pas de bon augure, pantoute.
Et si tu peux finir avec quelque chose, si je suis les conférences de presse quand même des Chargers, quand je dis que je suis fan. Puis, il essaie, en fait, Greg Roman puis Jim Oba essaie de rentrer dans la tête à Herbert, d'évaluer le jeu, puis d'arrêter de se forcer juste à essayer de voir la passe ou de quoi que ce soit, comme sur le 3e et 14. Si tu as de l'espace court, le bonhomme, il mesure 6 et 6, pèse 2,40. Il y en a des jambes, puis il est capable de courir, puis il essaie de le faire. Puis il a fait déjà 7 attempts. Sa plus grosse saison, ça a été l'année passée avec 69. Là, il est parti pour... S'il continue de même, il va pouvoir gagner des games en allant chercher des verges de même, des first downs. Puis je pense que c'est bon augure s'il commence à penser à courir aussi on the
side. Ça fait partie un petit peu de la philosophie 2025 de la NFL. C'est sûr que c'est pas obligé d'être Lamar avec un 100% dual threat, mais ça peut... Tu as besoin d'un QB... qui est quand même capable d'aller chercher ces first downs-là qui sont importants.
Oui, parce que, tu sais, Marco, j'aime ce que tu dis, parce que, tu sais, 7, c'est pas trop. Tu sais, pour un corps là, qui échappe à la pression puis qui il veut pas tenter un mauvais jeu. Tu sais, comme par exemple, si je veux faire un petit parallèle, tu sais, il y a des corps comme, par exemple, Aaron Rodgers à 41 ans, que dans le match Steelers-Jets, il se débarrassait du ballon. Tu sais, lui, c'est juste dire, hey, je peux pas aller chercher ces verges avec mes pieds, je reste intelligent, je force pas le jeu, je me débarrasse du ballon. Lui, il a pas à se débarrasser du ballon. Il n'y a pas à forcer un jeu qui va être une passe incomplète ou interceptée avec des courses intelligentes qui ne sont pas planifiées, mais qui peuvent être opportunistes. Il peut aller gagner des super beaux premiers jeux puis prolonger des séquences qui se seraient terminées avant. Fait que je pense que c'est inspirant pour les Chargers qui a eu le match qu'il y a eu. Fait que, mais j'aime beaucoup vous avez aussi Marc-André Pilosé. Ce que vous avez dit pour ajouter, parce que Marco parlait de son cœur. Ouais. Vous avez été dans l'analyse technique, mais c'est vrai que le plan de match des Chiefs, peut-être que s'ils ne se blessent pas troisième séquence, on a un match différent, mais on peut pas savoir. Il savait que les Chargers auraient gagné quand même, on ne sait pas plus. Le match aurait été différent, mais ils ont joué le match qu'ils avaient dans eux, puis ils ont super bien fait. Fait que
good exactement. Good job pour eux. L'an passé, on a perdu par 2 contre les KC, puis on n'avait pas Ladd McConkey et J.K. Dobbins. Il faut composer avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, une game de football reste une game de football. J'ai bien hâte de voir la suite.
Passons au prochain match. Marc-André Morisseau, ton match, dans le fond, tu veux nous parler. C'est tes Packers qui ont gagné 27-13 contre les Lions qu'on s'accordait tous la semaine passée, puis la deux semaines, pour dire qu'ils étaient divertissants. Puis là, ils n'ont pas été divertissants. Ou s'ils l'ont été, pas pour les bonnes raisons. Marc-André, ton analyse du match Packers-Lions.
En fait, tu sais, pour moi, les Lions, pourquoi l'année passée, ils ont eu tant de succès, c'est que les Lions étaient excessivement dominants sur les deux lignes. La ligne à l'attaque était incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que autant Gibbs que Montgomery ont eu des saisons de fou l'année passée. Puis la ligne défensive, surtout qui ramenait Hutchinson cette année, moi, je m'attendais que la ligne défensive de Détroit allait être très, très solide. Puis c'est pas compliqué. Les deux lignes des Packers ont complètement mangé les deux lignes de Détroit dans ce match-là. Jordan Love, j'ai pas la statistique de pressure rate, mais pour vrai, comme il aurait pu manger un steak là, avant de lancer son ballon. Il y avait tout le temps au monde pour lancer le ballon. En première demi, c'est incroyable là, pour vrai. T'sais, en deuxième demi, les Packers ont mis un peu le frein là, à l'attaque. Là, c'était moins impressionnant. Mais en première demi, Jordan Love a eu tout le temps. C'était des passes de 15-20 verges constamment. Puis défensivement, les Packers n'ont pas donné de jeu explosif au Lyon. C'est incroyable comment la défensive des Packers a limité. Jared Goff a une moyenne de 5 verges par passe, puis Montgomery a une moyenne de 2,27 verges par course, puis Gibbs a une moyenne de 2,11 verges par course. Il y a tellement de joueurs explosifs du côté de Détroit qui ont été complètement neutralisés par la défensive des Packers. Je vous avoue que je suis quand même très, très impressionné. Puis moi, j'ai vu beaucoup de reviews qui disaient « Ah, Micah Parsons a tellement fait une grosse différence. » Pour vrai, le gars, il a joué 20 snaps. Là. Il embarquait quand c'était troisième essai, puis c'était à peu près ça. Là. Moi, je trouve pas qu'il a fait une si grosse différence dans ce match-là. Il a presque pas joué. Oui, il a eu son sac à la fin. Là. Il a son sac, là, tout le monde était content parce qu'il y a eu un sac. Mais pour vrai, il a presque pas joué. Puis honnêtement, il a presque pas eu d'impact dans ce match-là. Donc, je me dis, à partir du moment où Micah Parsons va rentrer à 100%, tous les jeux dans cette défensive-là. Moi, je pense que la défensive des Packers va être excessivement difficile à affronter. Là, de la façon qu'ils ont... Je comprends que tu as un ajustement du côté des trois parce que c'est deux nouveaux coordonnateurs, mais ça reste que tu as Amon-Ra St. Brown, tu as Gibbs, tu as Montgomery qui sont là, puis tu n'as absolument rien fait. Il faut quand même lever notre chapeau à la défensive des Packers. Pour moi, c'est vraiment impressionnant. Puis, côté d'attaque des Packers, c'est une attaque que c'est excessivement difficile à gérer en fantasy football parce que tu sais jamais quel maudit wide receiver il va popper chaque game. Pour vrai, tu regardes...
En tout cas, c'est pas Golden.
Non, mais tu sais, Marc-André, j'ai la feuille de match devant moi.
Pour vrai, le gars qui en a le plus, c'est 3-4, là. Comme...
Il était visé 5 fois. Celui qui a le plus de targets, 5, c'est Jaden Reed. Puis, plus de passes captées, qui est 3. Toutes les autres, c'est 2 ou 1, là. Puis, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes différentes avec une passe captée.
Tu sais, c'est fou, là. Fait autant côté fantasy, c'est tough, mais côté défensive adverse, ça devient difficile parce que tu sais jamais le plan de match va tourner autour de quel receveur. Fait que vraiment, puis je trouve que Jordan Love, deuxième demi, ça a été un peu moins impressionnant. Je ne sais pas, c'est-tu parce que l'avance était trop grosse, puis là, il voulait se calmer un peu, puis juste brûler du temps avec Jacobs. Mais en première demi, Jordan Love a été vraiment impressionnant. Je trouvais qu'il était right on point, des belles passes précises. C'était peut-être, tu sais, l'osé, tu l'avais mentionné la semaine passée, que c'était peut-être un doute. Moi, je trouve que Jordan Love a vraiment livré la marchandise en fin de semaine. Contre une équipe, c'était un match important. Il y avait beaucoup de hype autour de ce match-là. Puis vraiment, il y a deliver, là.
Ouais, ben, t'as raison, tu sais, la semaine passée, j'avais dit que moi, saison 1 de Jordan Love, j'avais été extrêmement impressionné. Je trouvais qu'il était clutch d'un moment important, qu'il prenait des bonnes décisions pour une recrue. Puis j'ai tellement trouvé que la saison passée était décevante. Tu sais, oui, les Packers ont quand même bien fait, mais on s'entend que toute l'attaque reliait sur le jeu au sol. Tu sais, ça a été ça toute la saison. Puis là, ben, j'ai pas eu le visuel de tout le match parce que je faisais du back and forth un peu, mais il a été vraiment impressionnant. Tu sais, des bonnes décisions. Comme tu dis, Hutchinson, il était là. Ils n'ont pas réussi à mettre de la pression. Pourquoi? Parce qu'ils se débarrassaient du ballon
rapidement. Oui, c'est ça.
C'est ça que tu veux d'un jeune corps. Tu veux qu'il lance le ballon rapidement, surtout quand tu as des chasseurs de corps élites de l'autre bord.
Il joue comme un vétéran, pour vrai. L'œuvre, là, je pense après la première séquence à l'attaque ou la deuxième, en tout cas, il y avait genre 8 receveurs différents en dessous
de passe. Là. Il était 8 en 8 à 8 receveurs différents.
C'est ça, c'est du Mahomes.
C'est débile. Là.
C'est du Mahomes tout craché.
L'Ozé, tu dis Mahomes tout craché, mais c'est aussi du back in the day, c'est du vieux Packers. Parce que Aaron Rodgers faisait ça. Nombre de fois, j'étais ça à RDS, puis la phrase, puis le 3 ans, j'arrêtais pas de dire à Marc-André, je suis chenné d'entendre, c'est oh, encore un autre receveur. Dixième receveur visé.
Ben ça va genre... avec. Oui, ben t'as un bon point. Puis ça va avec le fait que c'est la première fois en 25 ans qu'ils draftent un wide receiver en première ronde. Mm-hmm. Fait qu'ils n'ont jamais été chercher les top wide receivers parce que l'équipe a toujours été basée sur une bonne défensive avec un QB All-Star qui est capable de faire la job puis distribuer à gauche à droite.
Mm-hmm.
J'ai hâte de voir sur le long run si Golden va prendre plus d'espace, mais pour l'instant, ça semble être le même schéma même d'attaque. La même recette. Puis garde Jacobs, il n'y a pas vraiment. Tu sais, il y a 19 carries et 66 verges là, pour un heavy run attaque, supposément. Il n'y a pas fait la différence tant que
puis ça. Tu sais, pour vrai, il y a 19 courses, 66 verges, mais la très grande majorité de ses courses, c'est en deuxième demi où il voulait juste brûler du temps. Ouais. Parce que pour vrai, en première demi, on l'a presque pas vu, là, Jacobs.
Il n'y avait pas de
vraiment love, là.
Ouais. Exactement.
Marc-André, dans le fond, là, juste deux questions pour toi, parce que c'est ton match, puis les autres aussi vont pouvoir réagir.
Ouais.
Est-ce que ça t'inquiète pour les Lions, un match peu inspirant, puis sortir comme ça d'entrée de jeu de cette façon-là, ou tu penses que c'est que les Packers, ils sont très dominants, puis ils avaient plus faim qu'eux autres?
Ben, moi, je pense, tu sais, je l'ai mentionné vite fait, tantôt, je l'ai mentionné plus en détail la semaine passée, moi, je pense qu'il y a un ajustement avec le fait que les Lions ont perdu leurs deux coordonnateurs, autant à l'attaque qu'en défense. Pour moi, c'est pas nécessairement un match qui m'inquiète du côté des Lions. Je t'avoue que on parlait de paris sportifs la semaine passée, que je disais que je favorisais les Lions pour gagner la division. Après ce match-là, je ne pense pas nécessairement que les Lions vont gagner la division parce que les Packers m'ont vraiment impressionné. Par contre, je pense quand même que les Lions vont faire les séries. Il y a trop d'armes dans cette équipe-là pour que les Lions ne fassent pas les séries. Fait, est-ce que ça m'inquiète? Non, mais je revois quand même un peu mon standing dans cette division-là à cause de ce match-là. Là.
À moins qu'il se passe quelque chose qui te fait changer d'idée encore.
Oui, exact.
Pour l'instant, tu vois les Packers gagner la division. Ce que vous deux, vous ne voyez pas
non.
La semaine passée. Fait que... ouais.
Ben moi, pour ma part, est-ce que je trouve ça inquiétant, le match des Lions? C'est dur à dire parce que on en a parlé un petit peu la semaine passée ou la deux semaines, que tu as beau arriver physiquement en santé au premier match de la saison, mais être physiquement en santé, c'est pas être game shape. Il y a une grosse différence avec faire un camp d'entraînement sans contact, sans vraie pause, sans vraie pression, puis arriver, puis mettre tout. Fait que ça arrive souvent, tu sais. On va prendre par exemple les Bengals, que c'est le meilleur exemple dans les 5-6 dernières années. C'est tout le temps un peu n'importe quoi les premiers matchs de la saison. Ravens, ça fait 3 années de suite qu'ils droppent le premier match. Fait que t'as beau être préparé puis être en santé physiquement, ça veut pas dire que t'es prêt pour un game shape. C'est pas la même chose. Puis là, c'est sûr, le changement des coordonnateurs, on avait déjà parlé, grosse différence. Par contre, moi, je trouve que c'est pas tant inquiétant. C'est sûr que les Packers ont été super impressionnants. Ça c'est la chose qu'on va tous être d'accord. Je suis pas prêt à dire encore que je vais changer mon fusil d'épaule sur le gagnant de la division parce que cette division-là est vraiment difficile. Toutes les équipes sont bonnes. Fait que n'importe qui peut dropper une game contre un rival de division n'importe quand. Là, Détroit, ils n'ont pas droppé leur match à domicile. C'était le match à l'étranger. Fait que le Packers, va falloir qu'ils aillent à Détroit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner ce match-là. Ils pourraient square les things off, tu sais, à ce moment-là. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé dans le peu de temps que j'ai regardé ce match-là, c'est que, tu sais, dans un match, quand tu veux vraiment te l'avantage puis tu veux vraiment partir avec le match, il faut qu'à un certain point, tu aies un joueur qui fait un jeu clé. Détroit, on connaît tout le firepower, on connaît toute la précision de Goff, à quel point ils sont électrisants, Jamison Williams, Amon Ra, Monty, Gibbs. Ils peuvent tous faire un gros jeu n'importe quand. Puis là, il est en train de traverser le terrain, tomber à une possession environ de différence, juste avant la deuxième demi. Tu sais, le genre de drive qui peut complètement changer le momentum d'un match. Puis, whoop, à ligne de 13, je ne sais pas c'est quel joueur de Green Bay, il sort le gros pick.
Ouais.
Tu sais, c'est ce genre de match-là. Fait que est-ce que si ce jeu-là, c'est un touchdown, je pense pas qu'on a la même discussion en disant peut-être Packers gagne quand même, mais je pense pas qu'on dit « Oh my God, c'est inquiétant pour le Détroit. » Tu sais, ça aurait été un match beaucoup plus serré si c'était pas de ce un jeu-là. Mais en même temps, c'est ça qui fait des bonnes équipes qui ont une bonne défensive. C'est que tu vas chercher le gros jeu au bon moment, même si t'es pas super bien toute la game. On peut en parler à celui qui a forcé le fumble à Derrick Henry. C'est un peu,
j'aime ce que tu dis parce que c'est pour les Packers, c'est quand même impressionnant puis ça valide le fait qu'ils sont là parce qu'ils viennent de le montrer. Pour les Lions, avec leur historique des deux dernières années, que ça se passait bien, on leur fait confiance que peut-être la semaine 1, tu l'as échappé contre un rival qui était meilleur que toi dans ta division. Mais prochaine game, ça va être un petit wake-up call puis ça se peut que ça se replace dès la semaine 2 ou même la semaine 3. Ou peut-être même comme les Ravens l'an passé, à la semaine 5, tu droppes encore une autre avance de 20 points, mais à partir de la semaine 6, tu es on a roll. Fait que ça se peut que ça prenne un peu de temps pour se trouver, mais que tu leur fais confiance encore à ce statut de l'année pour dire ils vont finir par se trouver, puis ça se peut que ça se débloque plus tard. Fait que on n'est pas alarmiste pour Lyon, mais on est vraiment content et excité pour les Packers.
Exactement.
Pour compléter vite, il y a eu des points d'interrogation sur la secondaire de Détroit. Ils ont perdu Carlton Davis au New England Patriots. C'était un de leurs meilleurs CB. Rex Chua a été season-ending injury au début de l'année. Puis là, Arnold qui s'est blessé directement durant la game, puis ils vont manquer plusieurs semaines. Fait que là, côté cornerback, ça commence à être mince. Là. Fait qu'il va falloir surveiller ça aussi parce que la défensive de Détroit n'est pas invincible non plus. Là.
Ah, puis ça, pas invincible. C'est une défensive qui n'est pas invincible, c'est bien celle-là. Ouais.
On dirait un rappel de l'année passée que c'était leur 12e sur le depth chart qui jouait.
C'est la bonne année? C'est-tu récent, ça, ce que tu viens de lire, ou c'est de l'an passé, ça, le petit depth chart? Là? Est-ce que c'est 2024 en haut de la fiche, cette année, que tu viens de lire?
Il y avait au moins 10-12 partants qui n'étaient pas là l'année passée.
Maintenant, on est rendu à toi, Lozé. Tu veux nous parler du match Bills-Ravens, un match encensé, qu'on s'était prononcé que ça pouvait finir 21-20, ou même on avait callé le fait 42-40. On avait callé que c'était un match à haut potentiel. Puis selon comment ça joue, si c'était timide au début ou non, ça a été tout feu, tout flamme. Super beau match. J'ai vu la première demi et pas la deuxième parce qu'il fallait que je dorme. Là, j'étais physiquement fatigué. Mais 41-40, les Bills l'emportent à la toute fin du match contre les Ravens. Lozé, parle-nous de ça.
Écoute, je suis encore en train de reprendre mes émotions. si vous savez le nombre de messages, le nombre de tout ce que j'ai pu recevoir. En passant, je fais juste dire aujourd'hui que je ne suis pas un gars de parole. La semaine passée, je vous ai dit, si jamais Casey et Ravens perdent, vous ne me revoyez plus, mais je suis là quand même. Non, mais écoute, honnêtement, quoi dire de ce match-là? Il y avait tellement de hype alentour de ce match-là, c'est reprise du match de playoff de l'année passée, qui s'est fini sur un échappé de Andrews, que ça a fait, il y a eu de la pas de la polémique, mais tu sais, tout le monde, encore le Mark Choke, encore ci, encore ça, mais là, t'as les fans des Ravens sont comme, mais non, c'est pas de sa faute, on aurait gagné le match. Tu sais, il y a tellement eu de discussions sur ce match-là, il y a tellement de hype, j'en ai parlé la semaine passée, on va dire le MVP un peu controversé de l'année passée de Allen versus Lamar. Fait qu'il y a tellement eu de discussions par rapport à ces deux-là, les deux équipes, tout l'été. Ils partent, premier Sunday night, le hype est through the roof. Tu te dis, c'est quasiment impossible qu'un match arrive à rejoindre les expectations, puis ça les a dépassés fois 100. Là. Et je peux garantir aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que c'est le match de la saison. Ça ne sera pas battu. Ça sera probablement même pas battu au Super Bowl, peu importe qui est là.
Pas battu pendant 10 ans, même.
Ah, c'était complètement vraiment... Parce qu'il y a vraiment eu de tout dans ce match-là. Là, moi je suis très terre-à-terre et honnête, puis je suis pas comme le bandwagon à Marco. Là, je partirais pas en peur sur Josh Allen puis toute l'équipe. Par contre, je veux pas, il a fait la job. Là, on va essayer de faire une analyse un peu plus complète, mais... Moi, j'ai été extrêmement impressionné par absolument quasiment tous les joueurs. Dans le sens que, OK, tel joueur, tu t'attends à un gros match, ils ont outperformed. Lamar, en première demi, j'ai même envoyé une photo à Marco pendant le match. J'ai dit, Lamar, il n'a même pas 30 ans, c'est lui qui détient le record avec ton joueur, Julien, Big Ben. Pour le plus grand nombre de matchs avec un passer rating parfait dans l'histoire de la NFL. Les deux en ont quatre.
C'est vrai.
Au troisième quart, Lamar avait un passer rating parfait encore. Fait que j'ai envoyé une photo, je vois, le kid est avait de passer tout seul en tête. Là, finalement, il a manqué deux passes de suite, puis il a juste fini à 144.6. Mauvais
juste
match.
Ça, come on.
Non, mais Lamar est extrêmement impressionnant par la course. Par la passe, des passes deep, très, très accurate. Derrick Henry, bah, tu sais, quoi dire du King Henry, qui c'est clairement le joueur sur lequel je peux mettre Marco dans mon équipe. C'est rare qu'on est d'accord, mais c'est le joueur sur lequel Marco puis moi, on s'est le plus trompé dans l'histoire du football. Parce que ça fait deux ans que je dis que c'est impossible que ce gars-là, il joue encore. Il est fini. Ses dernières années à Tennessee, il n'avançait plus. Il avait un yards per carry de à peine 3. J'ai dit, pourquoi que Ravens vont le prendre? Ça ne donne absolument rien. Puis il est juste en train de défier Father Time. Il est en train de défier.
169 verges, 2 touchés, énorme match.
Ça, il est pas...
Puis c'est pas juste une affaire de 169 verges sur 42 carries. Non, non, c'est des courses explosives.
C'est 9.39 verges par course. Là. C'est pas bon comme s'il y avait une course de 90 verges que tu fais comme ça se scrape complètement, ça se tasse. Il est juste incroyable.
Il y a quand même 2-3 grosses courses.
Oui, mais c'est juste c'est juste vraiment dominant. T'sais, même les jeux où ils se faisaient toucher à la ligne de mêlée, c'est du 6-7 verges quand même. C'est vraiment juste dominant. Là, évidemment, il est arrivé, qu'est-ce qu'on sait tout, il a échappé le ballon qui a probablement coûté le match aux Ravens. Mais je vais revenir plus tard avec ça parce que j'ai une petite théorie sur comment ils ont perdu le match aussi. Il y a des affaires de coaching, moi, que j'aime pas. Pas juste sur ce match-là des Ravens, mais quelque chose qu'on voit souvent au travers des matchs que les équipes ont deux possessions d'avance ou une possession
en général, d'avance. En général, des Ravens.
Oui, en général. En général. Okay. On voit tout ça partout à travers la ligue. Les Bills, des joueurs qui ont été impressionnants. Pas impressionnant, il n'y a pas eu un gros match, mais l'année passée, après avoir une saison recrue quand même très, très acceptable, Dalton Kincaid a pratiquement pas été visé de toute la saison passée.
C'est vrai.
Il n'a vraiment pas été utilisé. C'est un gros bonhomme, un gros tight end. Il était quand même, de mémoire, là, si je ne me trompe pas, il a été drafté quand même assez tôt. Oui, c'est ça. J'avais en tête que c'était un premier round. Puis là, il n'a pas eu 22 targets, mais tu vois qu'il a été impliqué. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils ont changé dans leur approche, dans leur game plan. Keon Coleman, qui a quasiment pas touché au ballon l'année passée, beaucoup de targets. Fait qu'ils ont essayé de distribuer un peu plus le ballon. Puis, moi, vous savez comment que je suis loin d'être le fan de Josh Allen. V'là 2 ans, je faisais le bet le plus facile à chaque game, c'est de better que Allen allait lancer une interception. Il en lançait à toutes les games. Par contre, quand que Buffalo a changé leur coordonnateur offensif le 2 ans vers quelque chose comme le 10, 11e, 12e match de la saison, il a tout redessiné Josh Allen en tant que passeur. Fait que fini d'essayer les 30-40 verges, parce qu'on sait tous qu'Allen est un des bras les plus puissants de la ligue. Moi, je suis encore d'avis aujourd'hui, malgré toute l'opinion publique, qu'il n'est pas super précis sur ses passes qui carry 30 verges et plus. C'est là qu'il lançait toutes ses interceptions. Puis depuis que le nouveau aussi est arrivé, regardez l'année passée, il a lancé seulement quelque chose comme 6 interceptions dans l'année ou 7, quelque chose comme ça. Puis ça a été beaucoup de ça dimanche. Puis c'est fié à beaucoup de yards after catch. Keon Coleman, il a vraiment bien fait là-dessus. Il a gardé les petites passes à Kincaid. Fait que j'ai trouvé qu'il a joué vraiment dans qu'est-ce que depuis 2 ans, il outperform vraiment beaucoup. Parce qu'avant, sa lacune, c'était les turnovers. Bon, là, on va arriver à Josh Allen. Évidemment, il était extraordinaire. Ça serait vraiment stupide de dire l'inverse. Faut que je fasse une parenthèse parce que je ne suis pas capable de ne pas le dire. Parce que j'essaie d'être le plus honnête possible. Mais on va se dire, là, le dernier touché ou l'avant-dernier touché des Bills, là, c'était un peu n'importe quoi. Là. Le tip du 4e essai, là, ouais. C'est pas à Coleman qui lançait ce ballon-là. Mais ça, c'est quelque chose. Quand tu es un winner, quand tu es un bon joueur, tu arrives à créer ces chances-là.
On voit que ces choses-là.
Il aurait pu débarrasser du ballon, il aurait pu prendre un sac, mais il a juste essayé de lancer parce qu'au pire des cas, la game était finie de toute façon. Puis là, il est juste arrivé quelque chose de son bord. Mais non, tu sais, il est arrivé au 4e quart avec, tu vois que le gars, c'est un winner. Il est arrivé avec le feeling que le match n'était pas fini. Il n'a pas give up. Ils ont drivé le terrain à plusieurs reprises. Ils ont eu 4 drives, ils ont scoré 3 fois. Même à la fin, tu sais, il aurait pu... C'était pas fait qu'il gagnait la game sur le dernier placement. Il a drivé le terrain, il a fait ça comme un chef. Il n'a pas pris trop de temps, il n'a pas pris de sac de mémoire. Il se débarrassait du ballon au bon moment. Un match extraordinaire de Josh Allen, rien à dire. Énormément de verges, beaucoup, beaucoup de passes tentées, mais le script du match faisait en sorte qu'il fallait qu'il lance le ballon. Je pense pas qu'à long terme, pour les Bills, c'est le script qui va les favoriser. Mais normalement, c'est une équipe qui va être en avant quasiment à toutes les games, donc ils vont courir plus le ballon.
Il n'a pas couru beaucoup, Josh Allen. En plus, je pense que c'est 30 verges dans toute la game.
Oui, ouais, c'est ça. 31, je pense, quelque chose comme ça.
Il a fait 2 touchdowns.
Il a vraiment bien géré. Il a joué 14
couches, 30 verges, exactement. Ouais.
Il a joué un match extraordinaire. Là. Moi, je suis un fan fini de Lamar, mais c'est sûr que pour n'importe quel fan de Josh Allen, ça a été extraordinaire de voir jouer. Puis, je l'ai dit depuis le jour 1, à base, je suis un fan de football. Puis de voir un gars comme Josh Allen jouer dimanche, pour le fan de football en moi, c'était vraiment hot. Oui. C'était juste, présentement, les deux gars qui ressortent le plus de la Ligue, on va dire depuis 2 ans, c'est ça qu'on a eu dimanche. Ouais. Parce que là, c'est sûr que les stats de Lamar, ils sont, mais en même temps, tu mènes par 14, c'est sûr que tu ne lances pas le ballon sans arrêt. Il y a quand même 19 passes tentées, il y a 220 verges, 2 touchdowns, 1 par la course. Ça a juste été overall un match juste malade mental. Ça ne sera jamais battu. Puis là, pour en revenir un peu à ce que je voulais dire, une tendance que j'ai remarqué dans les dernières années, à regarder les matchs tout le temps, quand qu'une équipe, surtout si tu joues contre Cleveland, c'est pas grave si tu mènes par 14 points, par 13 points, par 15 points, puis tu cours le ballon, puis au pire, tu fais 1, 2, 3, tu écoules 40, 40, 40 secondes, puis tu fais juste attendre que le match finisse. Mais quand tu joues contre un Mahomes, un Allen, un Hurts, même si j'aime pas Hurts, fait que dans le fond, contre Philadelphie, contre Lamar, contre tous les Top Guns, ces gars-là, ils peuvent te faire mal en un rien de temps. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé au quatrième quart? Je pense que Allen a lancé pour genre 200 verges au quatrième quart, mais c'était quoi? OK, Ravens, ils mènent par deux possessions. On va accorder, on va juste sauver le long jeu. On va enlever le 30, 40, 50 verges du plan de match, puis on va accorder les 7, 8, 12 verges, puis on va attendre qu'il avance, ça va écouler le temps, nous autres, on va courir avec le ballon, on va découler le temps, puis on va se sauver avec le match. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, 20 verges à Coleman, 12 verges à Shakir, 10 verges à Kincaid, 5 verges à Cook. Puis là, c'est toutes des petites passes qui s'accumulent de même. Mais
ils ne font pas de caucus en plus, parce qu'avec les bons QB, ils ne font pas de caucus, fait que ça va vite, là.
Ils arrivent avec un no-huddle, puis là, next thing you know, ils ont traversé le terrain, ça fait 10 jeux, puis ça a pris 1 minute 24. Là, tu regardes le cadran, puis tu dis, ouais, il reste encore 13 minutes. On est rendu juste une possession en avant. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une tendance. C'est pas juste les Ravens qui l'ont fait dimanche. Puis là, ils ont été chanceux de revenir avec un touchdown, un autre long jeu d'Henry. Fait qu'ils ont fait la même affaire. Mais au bout de la ligne, Henry a scoré un touchdown de 50 verges. Fait que la possession des Ravens n'a pas duré longtemps. Fait que là, les Bills, ils reviennent, puis ils refont une autre possession de 1 minute. Fait qu'au bout de la ligne, il y a eu 2 touchdowns en peut-être 3-4 minutes de jeu. Fait qu'il reste encore beaucoup de temps au cadran. Puis là, il arrive le moment où tu es obligé de faire écouler. Ça c'est le. Moi, c'est la pire chose, celle que j'aime le moins. C'est OK, il reste 2 minutes. Les Bills ont leurs 3 timeouts. Il faut juste gagner un first down, puis on gagne le match. Mais là, tout le match au complet, t'as dominé avec Lamar qui courait, qui avait des read pass options, il a quasiment pas manqué de ses targets. Puis là, tu fais juste un petit sweep à Flowers, une petite course, puis tu te ramasses en 3 et 11, puis t'as pas écoulé aucune seconde. Fait que tu sais, moi, c'est ces choses-là. Pourquoi tu continues pas avec le game plan qui t'a fait être en avant par 2 possessions tout le match? De dominer l'autre équipe toute la game. Tu sais, la défensive des Ravens, au bout de la ligne, ils ont paru vraiment pas bons parce qu'ils ont, tu sais, dans le monde des fantasy, Marco va être d'accord, on appelle ça les garbage points puis les garbage yards. Tu sais, l'équipe qui est en arrière, ils vont ramasser des 12 verges, des 20 verges, des 12 verges, des 20 verges, puis un touchdown parce que l'équipe défensive les laisse tout le temps faire. Parce que c'est pas grave, tu mènes par 2 possessions. Mais là, tu es contre les Bills puis Josh Allen, que c'est jamais fini parce qu'ils peuvent faire les gros jeux. Ils peuvent faire un touchdown en 1 minute. Ils ont fait 3 ou 4 punts dans le game. Pourquoi pas continuer avec la même pression défensive, la même pression sur le corps arrière, une coupe de blitz ici puis là. Puis au pire des cas, si jamais ils font le long jeu qu'ils n'ont pas fait de toute la game, ben ils le feront. Mais ça, c'est une tendance qui revient un peu trop souvent avec les équipes qui mènent par 2 possessions au quatrième quart. Sauf que tu ne peux pas te permettre de faire ça contre les meilleurs quarts. Fait que moi, je pense que Arba, il y a quand même une. C'est sûr que Henry, il a la plus grosse responsabilité de la défaite. On va tous s'entendre là-dessus avec le fumble. Mais je pense que Arba, il a
en
beaucoup,
même temps,
il a beaucoup juste, de responsabilité.
Je pense que tout le monde a un peu envie de réagir à ce que tu dis parce que ça fait réagir les fans. Mais je vois le temps que c'est cool. On va quand même garder un peu de jus pour tout le temps pour autre chose. Mais j'aimerais quand même juste synthétiser une affaire que tu as dit qui est super importante. C'est les maudites défensives spéciales. Ou est-ce que ça va brûler beaucoup d'équipes, mais des fois en playoff? Les Bills, avant, quand ils parlaient contre les Chiefs en playoff, souvent, c'est quand ils disaient on a une petite avance, puis on va leur laisser, puis tout le monde reculait, puis on disait oh, on va essayer de les faire taper en avant de nous, puis on va les stopper. Mais une fois qu'ils sont en avant de toi, ils savent courir, ils ont des bons angles d'attaque, puis ils vont, dès qu'ils battent un joueur, là, tu viens plus de donner un court gain, tu viens de donner un moyen, puis un long gain, puis ça tue les équipes. Puis l'affaire qui se passe aussi, il faut réaliser, c'est pas juste les attaques. Mais c'est les défensives des bonnes équipes peuvent créer des revirements. Puis les Bills, c'est quand même une équipe qui, historiquement, crée beaucoup de revirements puis se nourrit de fumbles ou d'interceptions. Fait que t'es contre une attaque qui est capable de marquer des points et une défensive qui est capable de créer des revirements. Faut vraiment faire attention. Puis arrête tes petits jeux, comme tu dis, tu as écoulé 2 minutes, mais c'est rien 2 minutes. Il en reste encore beaucoup.
C'est ça, exactement.
Faut que tu continues à aller chercher des points, rend ça encore plus difficile. Puis les Ravens, surtout eux, ils avaient une mentalité de piétiner l'adversaire. Ils aiment ça gagner par 40 points. Puis là, tout d'un coup, ils sont mis à juste « Ah, parce que c'est les Bills, on les respecte? » Non. C'est ça qui fait que tu as perdu ton match.
Pourquoi changer ton game plan qui a fonctionné pendant 3 quarts au complet?
Ouais.
Il est arrivé une coupe de miracle. Excuse-moi. Il est arrivé une coupe de miracle aussi. Il n'y a pas juste Henry qui a fumble le ballon. Après ça, il a fallu qu'il fasse un touchdown. Après ça, il a fallu le touchdown miracle tip. Après ça, il aurait fallu qu'il arrête les Baltimore trois essais pour reprendre le ballon. Pour après ça, faire une passe de 50 verges presque dans la zone des buts.
Il y a eu le placement aussi.
Exactement. Il est arrivé bien des affaires pour que ça arrive tout seul.
L'extra point manqué de Loop. Qui avait un match parfait pour son premier match. Il manque le extra point, perd par un. Il y a bien des affaires. On dirait que les
dieux. Tout s'est comme placé au quatrième quart.
Les dieux du football étaient contre moi. Marco m'a dit cette semaine que j'avais pogné son curse.
Mais là, on est rendu à 45 minutes in. Je coupe la discussion, les boys. Beaucoup de matchs. On va en revoir, puis on va en jaser de cette maudite affaire-là, des défensives spéciales, puis on change de game plan à la dernière minute. Mais Marc-André, segment Rafale, il y a eu beaucoup de matchs. On ne prendra pas le temps de parler de tous ces matchs-là. Donc, dis-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé dans tous les autres matchs de la NFL?
Yes, donc en Rafale, rapidement. Eagles, premier match de la saison, gagne 24-20 contre les Cowboys. C'est le festival du crachat Prescott et Carter. Et je pense quand même que ça l'a influencé ce match-là parce que ça a été plus serré à cause de ça, parce que les Cowboys ont couru direct au centre de la ligne vu que Carter n'était pas là tout le match. Les Eagles l'emportent 24-20. Ça vient de tomber.
Le Hot Tua Bowl.
Voilà. Mais ça vient de tomber. Carter n'est pas suspendu. Il y a un fine d'à peu près 57 000 $ donc il sera là la semaine prochaine. Il y en a qui pensaient qu'il serait suspendu.
Fait que 2,5 finalement.
Ouais, pour lui, ça ne change rien. On a parlé Chiefs-Chargers vendredi. Dimanche à 13h, les Buccaneers battent les Falcons 23-20. Match super divertissant qui est gâché par les deux botteurs qui ont raté des placements et des extra points à la fin du quatrième quart des deux côtés. C'est dommage parce que c'était une maudite bonne game. Bengals qui l'emporte 17-16 contre les Browns. J'ai rien à dire à part le fait que ces deux équipes-là ne feront pas les éliminatoires. Les Colts qui gagnent 33-6 contre les Dolphins. Mike McDaniels qui prend plus de coke que de bonnes décisions. Donc, attendez-vous à ce que ce gars-là soit congédié rapidement parce qu'il pourrait perdre.
Ouais, je pense qu'il a été congédié hier. Là. C'est pas apparu encore. Là,
non, c'est ça.
Il est déjà.
Pour vrai, le perdre 33-8 contre les Colts qui était supposé être une des pires équipes de l'histoire de la NFL sur papier, comme ça n'a aucun sens, cette game-là. Jaguars qui l'emporte 26-10 contre les Panthers. Match quand même encourageant pour les Jaguars. Les Raiders qui gagnent 20-13 contre les Patriots. On en parlait la semaine passée qui est un match quand même important pour ces deux équipes-là qui veulent participer aux éliminatoires, les deux dès cette année. Pete Carroll, un retour. Ce gars-là est un excellent entraîneur. Cars l'emporte 20-13 sur les Saints. Même chose, je pense pas que c'est deux équipes qui vont participer aux éliminatoires, mais quand même, les Cars qui partent sur une belle lancée. Les Steelers l'emportent 34-32 sur les Jets. L'Osé a un coup de pas à faire parce que c'est un match ultra divertissant. Par contre, c'est quand même excessivement pour ces deux équipes-là qui sont supposées être deux équipes défensives avec pas d'attaque et qui donnent 32 et 34 points à l'autre équipe. Je trouve quand même que c'est inquiétant pour les deux équipes. Les Commanders l'emportent 21-6 sur les Giants. Rien trop à dire, les Commanders, on s'en attendait un peu. Broncos 20-12 contre les Titans, malgré un Cam Ward qui n'a pas connu une super bonne game. Les Titans ont quand même été dans le match. Je trouve que c'est quand même rassurant pour eux parce que les Broncos, il y avait beaucoup de hype autour des Broncos d'arriver là avec un Cam Ward. C'est son premier match, il n'y a pas eu un match étincelant, mais d'être dans le coup malgré tout, je trouve ça quand même intéressant pour les Titans.
Bonne défensive.
Oui, vraiment.
Très mauvais match de Bo Nix.
Ouais.
J'ai hâte de voir comment il va ressortir au deuxième match.
49ers qui l'emportent 17-13 sur les Seahawks, donc des rivaux de division, les 49ers s'en sortent victorieux. Les Rams qui gagnent 14-9 dans un match ultra défensif de deux équipes qui espèrent participer aux éliminatoires. On avait des grandes espérances par rapport à ce match-là. On en parlait la semaine passée, 14-9. J'ai pas vu du tout ce match-là parce que j'écoutais les Packers. Mais 14-9, ça me semble très, très bas pour les deux attaques qui étaient présentes. Et finalement, Monday Night Football, les Vikings qui gagnent avec une remontée au quatrième quart de J.J. McCarthy, le corps arrière recrue que tout le monde, en qui tout le monde croyait.
Il l'emporte.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
Il l'emporte 27-24 sur les Bears. Donc voilà pour le résumé des matchs de la semaine 1.
Mini parenthèse, Marc. T'as dit le match 49ers-Seahawks, que 49ers en sont sortis victorieux. Mais ça, c'est juste sur le score sheet parce que ils ont été extrêmement maganés. Kittle qui est out au moins 4 semaines. Juwan Jennings qui attend le MRI qui est probablement out plusieurs semaines. Même Brock Purdy peut manquer deux semaines. Fait que tout le monde s'est blessé pendant le match.
À part CMC.
Les 49ers ont mis leur botteur dehors aussi. On parlait des botteurs. Là, ils ont wavé Jake Moody.
Ah ben oui, il a manqué en bas de 30 verges lui aussi. Ouais,
exact. Fait que voilà.
Ils sont à veine d'appeler les botteurs de la CFL parce que là, ça va pas bien dans toute la ligue. Là.
Pour vrai, je comprends pas. Pour vrai, dans
le NCAA, ils font
des field goals de 60 quelques verges, puis dans la NFL, ils ont de la misère à faire des extra points. Je comprends pas ce qui se passe dans
la NFL. Ça fait 3 ans. Puis là, c'est pas une stats que j'ai devant moi, là, mais c'est une stats de gars qui regardent les games. Puis clairement que le pourcentage d'efficacité des kickers a baissé drastiquement depuis 3 ans. C'est vraiment rendu une catastrophe. Là.
Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont changé le règlement. Ils ont comme, tu sais, l'extra point était plus court que ça avant. Je pense qu'ils ont comme rallongé de trois verges, juste pour essayer de descendre un peu le pourcentage de réussite. Puis là, on dirait que le 3 verges est catastrophique. Là.
C'est pas pour rien qu'on voit les équipes y aller de plus en plus en 4e essai. Parce qu'à un moment donné, les gars, ils peuvent plus se faire confiance.
Avant, un field goal d'en bas de 45 verges, c'était automatique. Là. Comme il n'y avait personne qui se posait de questions, c'était sûr. Puis à cette heure, pour vrai, c'est rendu que tout le monde est stressé sur un field goal de 32 verges.
Oui, puis on parle pas juste dans des terrains à ciel ouvert. Là. On parle dans les dômes aussi. Tu sais, les bottés manqués à Atlanta, c'est dans un dôme. Là. Il y a eu 2 field goals manqués, plus un extra point. Et puis on parle des field goals en bas de 35 verges.
Ou aussi, pas congédié, mais ils ont rappelé quelqu'un. Là, et je pense pas
les Falcons, ils ont amené
Il a manqué son coup.
Ça, c'est un 10 sur 10, Georges Larax.
En même temps, juste pour dire les botteurs, c'est quand même aussi ça qui avait de la différence dans le match Jets contre les Steelers. Premier touché des Jets, et le kicker manque son botté. Alors ça, il essaie d'y aller pour 2 points, manque l'extra point de 2 points. Puis c'est le 2 points justement que de 2 touchés qui n'ont pas eu l'extra point sur 2 fois. Puis c'est ça qui a coûté le match. Sinon, ça va en prolongation. Puis on ne sait pas qui gagne après ça, ce match-là. Fait ces batteurs-là font une différence.
Ça fait souvent un effet boule de neige parce que veut pas un touchdown, c'est supposé te donner 7 points. Fait que une fois que tu perds ton 1 point, eux, l'autre bord, ils font 7 à chaque fois qu'ils font un touchdown. Fait que là, tu essaies de le rattraper, puis là, tu manques ton 2 points le deuxième coup. Fait que là, tu fais juste des 6 points. Là. C'est quand même au bout de la ligne d'un match serré. Là. Ça fait toute la différence.
Dans ma game des Chargers, Butker avant la demi qui réussit un miracle, puis après ça, pouf, il manque l'extra point. Ça fait une game de 2 possessions, puis là, t'es comme...
Exactement, ça a tout changé.
Ça change sur le plan. Là.
S'il manque pas ça, ils sont pas obligés d'y aller pour le touchdown. Ça change absolument tout.
C'est fou.
Ouais, là, dans le fond, je vais juste faire un mini-segment de division. On n'en parlera pas trop vu l'heure qui avance, mais juste quelques petites divisions qui m'intéressent en ce moment. La AFC East avec les Bills, Jets, Patriots, Dolphins. Cette division-là, la seule équipe l'ayant emportée sont les Bills. Les 3 autres, la défaite, mais surtout les Dolphins qui ont perdu par 25 points. Ça me crée la surprise. Justement, les Dolphins, autant non compétitifs, puis le no-show qu'ils ont eu. Ça, c'est inquiétant pour les fans des Dolphins. Fait qu'à noter, à surveiller, cette division-là, est-ce que les Bills vont l'emporter facilement? On verra. Mais pour l'instant, les Dolphins, ça part mal. Est-ce que les Jets et les Patriots vont rehausser un peu leur niveau de jeu par rapport aux saisons dernières puis compétitionner pour le top de la division? Pour moi, c'est à surveiller. Donc, je serais quand même intéressant cette division-là. Avant que je parle de la prochaine, voulez-vous réagir par rapport à ces 4 équipes-là?
Vas-y, Marco.
OK, ben moi, je dirais que comme Daniel Jones, j'ai eu l'air d'un QB élite contre Miami. Fait que si vous avez des QB à starter contre Miami cette année,
let's go.
pas Jones, là. Tu as juste dit, si lui, ça s'est bien passé.
Si lui a réussi à faire quelque chose avec ça, avec son équipe et avec son talent,
absolument.
Comme parieur, elle lisait que le over toutes les semaines, que l'équipe qui joue contre Miami prenait le over du QB et du wide receiver numéro 1 à chaque semaine.
Je suis d'accord avec ça. Moi, évidemment, je pense que c'est complètement unanime pour le gagnant de la division. Là, puis ça devrait pas être super compliqué. Ça se peut qu'il droppe un match ici puis là parce que. Mais encore, cette division-là, cette année, comme l'année passée, ils ont une des cédules les plus faciles. Fait que je pense pas qu'ils. C'est pas comme si les Bills allaient après ça perdre des matchs contre, mettons, la division de Détroit. Puis, en fait, ils joueraient tous contre eux. Mais je m'attendais à une victoire relativement facile des Pats contre les Raiders. Pas un massacre, mais juste qu'ils dominent avec le jeu au sol, qui coule le temps, qui martèle les Raiders. Puis j'ai été très déçu de ça. Fait que je pense que ça va être encore plus facile que je pensais. J'avais un mini doute dans le back of my head, puis même Marc, il l'avait dit la semaine passée, que comme long shot, ça pourrait être un bon bet. Puis j'étais un peu d'accord avec lui. Mais là, en ayant perdu à domicile, je pense que là, ça enlève toute possibilité. Là.
100%.
Deuxième division dans la NFC North maintenant, avec les Packers, Vikings, Bears, Lions. On dirait qu'il va être la division la plus compétitive dans le fond, dans cette association-là. Les Vikings, là, ont vraiment monté beaucoup de caractère pour remonter face aux Bears. Les Bears ont démontré un beau match aussi. Ça s'est écroulé en fin de match. Mais je trouve ça quand même intéressant, les Lions qui ont eu historiquement des belles saisons les deux dernières années. Puis là, les Packers avec l'entrée de jeu. Selon vous, est-ce que c'est vite de même, là, c'est vraiment un long shot? Est-ce que c'est la division ou est-ce qu'il y a trois équipes qui font les éliminatoires cette année?
C'est pas sûr, j'en dirais peut-être deux, mais moi je suis vraiment surpris de Green Bay, puis ça pourrait être une belle surprise, puis il pourrait faire mal à des équipes dans les playoffs, ça c'est sûr. Là. Si jamais ça semble.
Moi je dirais pas oui, parce que trois équipes pour faire les playoffs, ça prend quand même vraiment beaucoup de. Parce que les tiebreakers.
En deux wildcards. Parmi
les trois. C'est ça, mais les tiebreakers pour faire les playoffs, la fiche à l'intérieur de la division est super importante. Fait que ça prend vraiment beaucoup d'étoiles alignées pour qu'il y ait trois équipes. Mais si jamais il y a une division pour que ça arrive, évidemment, ça va être celle-là.
Mais tu sais, l'année
parce
passée,
c'est. En fait, juste pour expliquer, Marc-André, juste te couper deux secondes avant, parce que juste pour expliquer ma pensée, c'est que dans le fond, avec les Commanders, Eagles, Cowboys, Giants, je vois deux potentiels pour les playoffs avec les Commanders et les Eagles. Fait que c'est ça mon troisième wildcard. Puis avec Buccaneers, Falcons, Saints, Panthers, c'est le gagnant de la division qui est en playoff, puis personne d'autre. Historiquement, je m'attends pas à des surprises là-dedans. Puis avec 49ers, Cardinals, Rams, Seahawks, c'est des équipes qui ont de la misère ces temps-ci. Ils vont un peu s'entretuer, mais beaucoup de blessures. Puis les Seahawks, pas inspirant. Les Rams, ça va pas bien, beaucoup de blessures. 49ers aussi. Fait qu'on dirait, je crois pas vraiment qu'il y a deux équipes là-dedans qui peuvent faire les playoffs. Moi, c'est mon analyse de la situation basée sur les années passées et la semaine dernière.
Les Rams pourraient surprendre. Si jamais ils restent en santé, ça pourrait être pas pire avec côté attaque, côté défense.
Moi aussi, j'aurais pensé 49ers, Rams, c'est très possible que les deux se faufilent. Sauf que là, les blessures de la première semaine, j'ai pas regardé la cédule des 49ers pour les 3-4 prochaines semaines, mais j'espère qu'ils affrontent pas des grosses équipes.
Marc, je t'ai coupé tout à l'heure.
C'est ça, j'allais dire. Moi, je ne suis pas tant d'accord avec ton analyse. Moi, pour moi, autant les Vikings que les Bears, ils ont joué un contre l'autre. Puis oui, McCarthy a été vraiment incroyable, mais ça reste que je ne suis pas convaincu quand ils vont jouer contre d'autres équipes. Je ne suis pas certain, moi, que les Vikings vont être si compétitifs que ça. Moi, je pense que Seahawks, Falcons, 49ers, Rams, Buccaneers sont tous en avant des Vikings pour moi actuellement. Fait que moi, j'ai de la misère à mettre Vikings ou Bears en série.
En fait, tu dis, moi, c'est une possibilité que j'ai, mais je ne suis pas en train de parier là-dessus. Là. Au contraire,
non, je le sais, mais.
Souvent, il y a une division qui va produire plus forte que les autres.
Oui,
je dis, est-ce qu'on va
j'ai
voir.
J'ai de la misère à voir cette
année. Parce que ça serait la seule division parmi les autres que je vois qui est vraiment peut-être une meilleure qualité d'équipe. Ouais, ils vont gagner contre les autres associations qui ont de la misère. Je me dis, est-ce qu'on va voir ça? Moi, je dis, c'est celle-là qui a le plus de potentiel.
Mais tu sais, l'année passée, cette division-là, c'est la division qui a eu la meilleure fiche combinée des genre 50 dernières années dans la NFL. Là, c'est cette division-là. Fait que c'est pas une surprise que ce soit des bonnes équipes, là, mais.
OK.
Mais là, ta vidéo est un peu décalée, ou c'est moi?
Ouais, Marc-André, je pense que tu as un petit bug Internet.
Okay. Bon, je suis désolé, je m'excuse.
Ça tombe bien que c'est ça à la fin, c'est pas grave.
Ouais. Là, on a parlé avec Marc-André, ce scénario-là pouvait arriver, donc on est rendu au moment de l'émission où est-ce que, là, on a créé la surprise avec Marco puis Lozé, mais Marc-André puis moi, on était préparés, on va faire une pause, on va mettre fin au podcast, on va partir un deuxième enregistrement avec une deuxième publication pour les matchs à venir, donc on va arrêter ça maintenant, on va plugger nos réseaux aussi, puis j'étais tellement impatient de parler à Marco que j'ai oublié de plugger Dualité, donc merci beaucoup à Dualité pour le beat d'intro. Puis Marc-André, plug nos réseaux, puis ensuite, on va faire une petite fin, puis on reprend dans quelques minutes pour nous, mais le lendemain pour les auditeurs, où est-ce qu'on va parler des matchs à venir à la prochaine semaine. Marc-André?
Yes, donc l'assistant coach et l'assistant coach podcast sur YouTube. On salue, by the way, un shout-out pour Max Pedding, Colocho et Dan Blaze qui nous ont écrit cette semaine avec des petits commentaires, des petits mots d'encouragement aussi. Donc, on les salue. On les salue tous. Donc, c'est des gens fidèles qui sont là depuis le début. Donc, un gros merci. Puis, suivez-nous. N'hésitez pas à nous écrire aussi l'assistantcoachpodcast@gmail.com si vous avez des questions. Donc, on vous souhaite une belle écoute. Puis, on sera disponible demain pour le podcast qui mettra en branle les matchs de la semaine 2.
Yes, sir. Merci, Marc-André.
Ciao.
Et ciao, les boys.
Salut.
Ciao, là.